La parole des contes avec Anne Wong.
Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour, bienvenue. Nous continuons toujours sur le thème des dragons, qui est un thème sans fin. Et là, avec le conte de Grimm le plus long, vous l'avez certainement jamais entendu parce qu'il est très très long. Il est si long que nous allons le faire en deux émissions. En voici la première. Donc avec le véritable héros qui a pensé couper les langues des sept têtes de dragon pour preuve et l'usurpateur qui n'a pensé que couper les têtes. Cette notion, nous l'avons déjà vue et nous allons la revoir. Mais là, ici, c'est très complexe. Il y a de nombreux contes qui sont ici rassemblés pour un peu corser l'affaire. Et bien souvent, on pense que c'est fini. Et non, ça recommence. Ou une nouvelle histoire qui parfait la première. Enfin, voyez plutôt. Il y avait une fois deux frères, un riche et un pauvre. Le riche était orfèvre. Il avait la méchanceté dans le cœur. Et le pauvre, il gagnait sa vie en fabriquant des balais. Il était honnête et bon. Le pauvre avait deux fils, des jumeaux. Et il arrivait parfois aux deux frères d'aller chez leur oncle, le riche, où ils trouvaient à l'occasion quelque chose à manger, des restes de sa table. Un jour, le pauvre était allé dans la forêt faire profusion de jeûner pour ses balais. Il aperçut un oiseau tout en or et si beau qu'il n'en avait jamais vu de pareil. Ramassant un caillou, il le lança, toucha l'oiseau. Une plume d'or tomba à ses pieds, tandis que l'oiseau s'envolait au loin. Le pauvre ramassa la plume d'or et la porta à son frère, l'orfèvre, qui l'examina et dit « C'est de l'or véritable !» Alors il la lui acheta et lui donna beaucoup d'argent contre la plume. Le lendemain, comme il était monté dans un bouleau pour y couper de quoi faire des balais, le pauvre aperçut de nouveau le bel oiseau d'or qui s'envolait. Il se mit à sa recherche et il trouva un nid. Et dedans, il y avait un œuf qui semblait en or. Il emporta cet œuf chez lui, puis il le porta à son frère qui lui dit à nouveau que c'était de l'or pur. Et il le lui acheta à bon prix. « Ce que je voudrais, » dit l'orfèvre. « C'est l'oiseau lui-même. » Le pauvre retourna une troisième fois dans la forêt et vit de nouveau l'oiseau sur son arbre. Il l'abattit d'un coup de pierre, l'oiseau, et le rapporta à son frère, qui le lui paya d'une bonne quantité de pièces d'or. « Oh, ben me voilà tranquille pour l'avenir, » pensa le pauvre, qui rentra tout heureux chez lui. L'orfèvre, lui, savait quelle sorte d'oiseau c'était là. Il appela sa femme et lui dit « Tu me feras retirer l'oiseau d'or, mais attention, que rien n'y manque. Je tiens à le manger en entier et tout seul. » Ce n'était pas un oiseau ordinaire. Celui qui mangeait son cœur et son foie trouvait ensuite chaque matin une pièce d'or sous son oreiller. L'épouse prépara donc l'oiseau pour le mettre à rôtir, sans savoir quels étaient les pouvoirs de cet oiseau. Plaça l'oiseau sur la broche et le laissa cuire. Elle était occupée à quelque autre travail quand les jumeaux arrivèrent en courant de chez leur père, le pauvre, le fabricant de balais, et entrèrent dans la cuisine où ils vinrent devant l'âtre et donnèrent pour s'amuser quelques tours à la broche. En la tournant, ils firent tomber deux petits morceaux de l'intérieur de l'oiseau dans le lachiche frite. Et l'un des garçons, « Oh, ces deux petits bouts, nous allons les manger !» personne ne le remarquera. Ouais, j'ai tellement faim. » Ils avancèrent leurs petits doigts dans la échefrite et se partagèrent les deux morceaux qu'ils mangèrent entièrement. Et à ce moment-là, la femme de l'orfèvre entra dans la cuisine. « Eh, qu'avez-vous mangé ?»« Oh, quelques petites bribes qui étaient tombées de l'oiseau. » « Oh mon Dieu, c'est peut-être le foie et le cœur. » Oh ! Elle s'empressa d'aller tuer un chapon dont elle prit le cœur et le foie pour les mettre à l'intérieur de façon à ce que son mari ne pût se douter de rien et ne se fâchât point. Quand l'oiseau fut rôti, bien à point, elle le servit à son mari, l'orfèvre. Il le mangea à lui tout seul et ne laissa rien dans le plat. Le lendemain, à son réveil, quand il fouilla de la main sous son oreiller pour y chercher la pièce d'or. Hein, chère auditrice et cher auditeur, qu'est-ce qu'il trouva ? Eh bien, rien du tout. Comme les autres matins où il s'était levé sans avoir mangé l'oiseau d'or. Et les jumeaux, de leur côté, dans leur maison de misère. Eh bien, le lendemain, quand ils se levèrent, qu'est-ce qu'ils trouvèrent ? Eh bien, quand ils se sont levés, ils ont entendu quelque chose qui tombait en tintant par terre. Ils ramassèrent l'objet, et à leur stupéfaction, c'était deux pièces d'or, chacun la sienne. Ils allèrent les montrer à leur père, qui s'en étonna, et leur demanda comment pareille chose était possible. Et comme ils trouvèrent deux pièces d'or chaque matin, le pauvre homme alla trouver son frère et lui raconta cette histoire étrange. L'orfèvre, lui, comprit tout de suite comment c'était arrivé. Et que les deux garçons avaient mangé le cœur et le foie de l'oiseau merveilleux. Aussi voulut-il se venger. Dans d'autres histoires, on donne un vomitif, et donc il vomit le cœur et le foie merveilleux, et l'autre les avale, et après on lui redonne du vomitif, enfin ça vomit beaucoup. Mais là, non, il veut juste se venger, il n'a pas pensé à ça, ça sera dans d'autres contes. Alors, donc l'orfèvre, le riche, va voir son frère, et lui dit: « Tes garçons ont un pacte avec le mauvais. Ne touche pas à cet or maudit et ne garde pas plus longtemps les enfants dans ta maison. Le démon les tient en son pouvoir et peut te perdre toi-même aussi bien. » Alors le pauvre marchand de balais, il avait la crainte de Dieu et la crainte du diable. Et à l'idée de perdre ses deux fils, il en est. Mais sa peur du diable était plus forte. Et il emmena les jumeaux très loin dans la forêt pour les y abandonner, le cœur navré, écrasé de tristesse. Les deux garçons perdus coururent çà et là dans la forêt, cherchèrent le chemin de la maison, et loin de le trouver, ils ne firent que s'égarer toujours davantage. À la fin, pourtant, ils rencontrèrent un chasseur qui leur demanda qui ils étaient. « Ben, nous sommes les enfants du pauvre fabricant de balais. » Et ils racontèrent au chasseur leur histoire, comment son père, leur père, avait peur du diable et comment ils avaient tous les matins une pièce d'or et c'était pour cette raison que le père les avait chassés. Alors le chasseur, il trouvait que c'était un bon truc, ça. « Oh, ben là, si vous restez bien honnête et si vous ne tombez pas dans la paresse à cause de cet or, eh bien, je veux bien vous emmener chez moi et vous protéger. » Les enfants étaient sympathiques à ce brave homme et il les ramena chez lui. « Je serai votre père et je vous élèverai. » Et il leur apprit le métier de chasseur. Et il mit de côté pour l'avenir les pièces d'or qu'ils trouvaient l'un et l'autre, chaque matin, quand ils se levaient. Lorsqu'ils furent devenus de vrais jeunes gens, leur père adoptif les emmena un jour dans la forêt et leur dit: « Mes enfants, Vous allez aujourd'hui passer votre épreuve de tireur. Que je puisse vous déclarer au terme de votre apprentissage de chasseur et vous inclure dans la corporation des chasseurs. » Ils se mirent donc à l'affût et attendirent très longtemps sans que se présentât le moindre gibier. Et pour finir, le chasseur vit passer au-dessus de leur tête un vol d'oies sauvages en forme de triangle et il dit à l'un des jumeaux de tirer la dernière de chaque ligne. Le jeune tireur le fit et réussit son épreuve. Peu après, un second vol arriva qui avait cette fois la forme du chiffre 2. Et le chasseur commanda au second frère de tirer la première et la dernière oie de la figure. Il le fit, réussit son épreuve. Leur père adoptif leur dit « Je vous déclare libre de mon enseignement et franc chasseur désormais. » Les deux frères quittèrent le poste d'affût et s'enfoncèrent ensemble dans la forêt pour se consulter et discuter de ce qu'ils allaient faire. Ils se mirent d'accord et le soir, quand ils revinrent à la maison pour le dîner, ils s'adressèrent solennellement à leur père adoptif et lui dirent « Nous ne voulons toucher à rien de ce qu'il y a sur la table, ni manger la moindre bouchée de nourriture, avant que vous n'ayez répondu à notre demande. » « Oui, et quelle est cette demande ?»« À présent que nous sommes instruits, il nous faut aussi terminer notre compagnonnage en parcourant le vaste monde. » Nous vous demandons donc la permission de partir pour accomplir notre voyage.
Oh là, oh, vous parlez là en véritable et hardi chasseur. Votre vœu correspond à mon plus cher désir. Partez donc et voyez du pays. Vous ne vous en trouverez que mieux. La joie illuminait le visage du vieux chasseur et ils firent un heureux repas tous trois en trinquant gaiement tous ensemble. Le jour venu, le père adoptif fit aux deux garçons cadeau d'un excellent fusil, d'un bon chien et d'un couteau neuf. Et ce couteau, gardez-le précieusement aussi longtemps que vous serez ensemble. Et si un jour vous vous séparez, plantez-le dans un arbre, à l'endroit de votre séparation. En y revenant, l'un de vous deux pourra toujours savoir ce qu'il est advenu de l'autre. Car s'il meurt, le côté de la lame tournée dans la direction qu'il aura prise se rouillera. Et s'il vit, la lame restera toujours brillante de son côté. Les deux frères s'éloignèrent ensemble et poursuivirent leur route plus loin, toujours plus loin, arrivant pour finir dans une forêt si vaste qu'ils ne purent pas en sortir après toute une journée de marche. Ils s'y installèrent donc pour la nuit et mangèrent ce qu'ils avaient dans leur sac. Le lendemain, quand ils eurent marché toute la journée, ils n'en étaient toujours pas sortis. Et comme ils n'avaient plus rien à manger, il faut que nous nous tirions quelques gibiers, sinon nous allons périr de faim. Il arma son fusil, se mit aux aguets, voyant déboucher un gros lièvre, il épaula prêt à tirer. Aussitôt, le lièvre cria « brave chasseur, laisse-moi sauf !» « Et je te donne deux levrots !» D'un bond, il fut dans le fourré et revint avec deux petits lièvres, si gentils et si joueurs que les deux chasseurs n'eurent pas le cœur de les tuer. Ils les gardèrent avec eux, et les deux levrots les suivirent sans quitter leurs talons. Un peu plus loin, la silhouette fuyante d'un renard se glissa devant eux, et les deux frères allaient tirer. Quand le renard « brave chasseur, laissez-moi sauf, je vous donne deux renardeaux !» Et il leur ramena deux adorables renardeaux que les chasseurs furent tout aussi incapables de tuer tant ils étaient mignons. Ils tinrent compagnie aux petits lièvres et suivirent avec eux. Peu après, ce fut un loup qui sortit de l'épaisseur du hallier. Il l'avait déjà mis en joue. Et quand le loup « brave chasseur, laissez-moi sauf, et vous aurez deux louveteaux. » Les deux jeunes loups allèrent rejoindre
les deux lièvres et les deux renards. Enfin, les deux petits lièvres et les deux petits renards d'eau. Et sur les talons des chasseurs. Et aussitôt, ce fut un ours qu'ils eurent dans leur mire. Et l'ours...
« Bravo chasseur, laissez-moi sauf! Deux oursons seront mon cadeau !»
Et les deux oursons allèrent rejoindre le reste de la compagnie. Et qui surgit pour finir?
Un lion qui apparut en secouant sa crinière de lion.
Les deux chasseurs, pourtant, ne se laissèrent pas effrayer et visèrent le lion.
« Brave chasseur, laissez-moi sauf, et vous aurez deux lionceaux !»
Et il revint, lui aussi, avec ses deux petits. Ce qui fait que les deux chasseurs avaient maintenant deux lions, deux ours, deux loups, deux renards et deux lièvres.
C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter.
C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter.
C'est dans 9 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter.
C'est dans 9 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter.
J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter.
J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter.
La jument de Michaud et son petit poulain sont passés dans le pré, ont mangé tout le foin.
La jument de Michaud et son petit poulain sont passés dans le pré, ont mangé tout le foin.
Et donc il y avait cette joyeuse farabande qui suivait les deux chasseurs, mais ils avaient toujours faim. Ils parlèrent au renard. Eh, dites donc, hein? Attrapez-nous quelque chose à manger, vous savez ce qu'il faut en ruse et en astuce. Et en effet, ils savaient que dans le bourg, non loin de là, il y avait du poulet facile à prendre. Et ils leur ont rapporté le poulet. Ils arrivèrent alors dans le village où ils purent acheter à manger pour eux et pour leurs troupes. Puis ils continuèrent le voyage, toujours avec les animaux à côté d'eux, devant, derrière, qui les accompagnaient. Les renards connaissaient admirablement le coin et ses ressources, n'ignorant rien des basses-cours qui s'y trouvaient, et ils surent renseigner les chasseurs à la croisée de tous les chemins et des sentiers de la région. Ils séjournèrent quelque temps dans ce pays qu'ils parcoururent en tous sens. Ils n'y trouvaient point d'emploi où ils pussent rester tous ensemble. Aussi, ils décidèrent de se séparer. Ils se séparèrent et se partagèrent leur troupe d'animaux. Chacun des deux frères eut son lion, son ours, son loup, son renard et son lièvre. Ils se firent leurs adieux en se jurant fidélité jusqu'à la mort. Dans leur amour fraternel, plantèrent dans un arbre le couteau que leur père adoptif avait donné, et partirent chacun dans sa direction, l'un vers le couchant, l'autre vers le levant. Le second des jumeaux arriva, suivi de ses animaux, dans une ville qui était toute tendue de crêpes noires. Il entra dans une auberge et demanda à l'aubergiste s'il pouvait loger ses bêtes et faire en sorte qu'elles aient à manger. « Oui, » dit l'aubergiste, qui les mit dans une étable dont le mur avait un trou. Et le lièvre passa par le trou pour aller chercher un chou. Le renard passa par le trou se procurer une poule. Et mangea encore le coq après. Mais le loup, l'ours, le lion, ils étaient bien trop gros et ne pouvaient se glisser par le trou et sortir. Alors l'aubergiste les fait mener dans un champ où dormait une vache.
Oh.
Et ils se régalèrent de la vache. Tranquillisé au sujet de ces bêtes, le chasseur demanda alors à l'aubergiste pourquoi la ville était ainsi tendue de crêpes noires.
« Ah ben parce que demain doit mourir la fille unique de nos trois. »«
Elle est donc si malade ?»«
Oh non pas, non, elle est en excellente santé et dans toute sa jeune fraîcheur, mais elle doit quand même mourir. »«
Ah oui ? Et comment cela se fait-il ? »
Ah, au-dessus de la ville se dresse une montagne où vit un dragon. Chaque année, il lui faut une jeune vierge à dévorer, sinon il dévasterait tout. Toutes nos vierges y ont passé. Il reste plus que la seule fille du roi, pour laquelle il n'y a plus de grâce possible. Elle doit être livrée au dragon demain. Et pourquoi n'a-t-on pas tué le dragon? Hélas, hélas, tant de chevaliers l'ont tenté déjà. Tous, sans exception, y ont laissé la vie. Le roi a même promis sa fille à celui qui vaincrait le dragon. Et aussi que le vainqueur lui succéderait sur le trône quand le roi mourra.
Le chasseur ne dit rien. Le lendemain à l'aube, il emmena ses animaux et gravit avec eux la montagne du dragon. Il avait une petite chapelle tout en haut, et sur l'autel de cette chapelle, trois coupes pleines étaient posées avec cette inscription au-dessous. Celui qui vide les coupes sera l'homme le plus fort de la terre et pourra se servir de l'épée enfouie sous le seuil. Il ne vida pourtant pas les coupes, pas à ce moment-là. Il revint sur le seuil, creusa et découvrit l'épée. Et constata qu'il était incapable de la faire bouger. Alors il rentra dans la chapelle, but les trois coupes, qui le rendirent tellement fort que non seulement il put enlever l'épée, mais encore il la maniait comme si elle ne pesait rien. Quand ce fut l'heure et le moment que la vierge princesse devait être offerte au dragon, le roi, le maréchal et toute la cour la suivirent en cortège hors de la ville. En voyant de loin le chasseur au sommet de la montagne, la jeune fille crut que c'était le dragon qui l'attendait là-haut. Elle s'arrêta et elle ne voulait pas y aller. Oh non, elle ne voulait pas monter. Et pour finir, il lui fallut bien reprendre sa marche. Douloureuse et terrible, puisque si elle n'y allait pas, la ville entière serait anéantie. Et tandis qu'elle gravissait la pente, le roi et ses courtisans firent demi-tour dans la pierre affliction et rentrèrent au palais. Le maréchal du roi, lui, par contre, resta sur place, car il avait ordre de rester et d'observer tout de loin. Parvenue au sommet de la montagne, la princesse y trouva non pas le dragon, comme vous le savez bien, mais qui, hein, cher spectateur, auditeur, il n'y a pas les images, mais bon, il y a le son. Hein. Et il trouva qui, le dragon? Non, le jeune chasseur, qui s'efforça de rassurer la princesse et lui dire qu'il était là pour la sauver. Il la mit à l'abri dans la chapelle où il l'enferma. Et presque aussitôt survint le dragon à sept têtes, qui se trouva fort surpris de voir le jeune chasseur et lui demanda « Que viens-tu donc chercher ici, petite chose ? Je suis venu pour te combattre !» Après tant de chevaliers qui ont laissé la vie, j'en aurais vite fini avec toi. Il se mit immédiatement à vomir des flammes par les sept gueules de ses sept têtes. Le feu aurait dû se propager dans l'herbe sèche et le chasseur succomber, suffoqué par la fumée, brûlé par le brasier. Mais ces animaux accoururent pour piétiner le feu et l'étouffer à mesure. Alors le dragon se jeta en avant pour en finir avec le chasseur. L'épée siffla dans l'air et trancha trois des têtes. Fou de fureur, le dragon se dressa de toute sa hauteur, cracha des flammes sur le chasseur et se rua à l'assaut pour l'écraser. Le chasseur brandit son épée, lui trancha encore trois têtes. Le monstre s'affaissa, perdant ses forces et son sang. Dans un dernier sursaut, il s'élança encore sur le chasseur, qui lui rassembla toutes ses forces pour frapper et réussit à lui trancher la queue avant de retomber lui aussi exténué, incapable d'achever le vaincu. Alors,
Il appela ses fidèles animaux qui déchiquetèrent le dragon et le mirent en pièces. Le combat avait pris fin. Le chasseur se traîna jusqu'à la chapelle et l'ouvrit pour trouver la princesse étendue sur le sol. L'épouvante et l'angoisse avaient été trop fortes pendant le terrible duel et elle s'était évanouie. Il la porta dehors et lorsqu'elle fut revenue à elle et eut ouvert les yeux, il lui montra le corps déchiré du dragon en lui disant qu'elle était sauvée et qu'elle n'avait plus rien à craindre. « Oh, tu seras mon époux, mon bien-aimé. Car mon père m'a promise à celui qui tuerait le dragon. » Retirant alors son collier de corail, elle le divisa pour le passer en collier à chacun des animaux fidèles comme un signe de sa reconnaissance. Et le lion reçut pour sa part le petit fermoir d'or. Au chasseur, elle fit présent de son fin mouchoir qui était brodé à son nom. Et le chasseur, l'ayant reçu, alla couper les 7 langues dans les 7 gueules du dragon et les noua dans le petit mouchoir pour les garder précieusement. Épuisé comme il l'était par la bataille et par le feu, réellement à bout de force, il dit alors à la jeune fille « Nous allons dormir un peu maintenant puisque nous sommes tous les deux si exténués et si las. » La princesse approuva et ils s'étendirent côte à côte sur le sol. Puis le chasseur dit à son lion « Tu veilleras sur nous et tu monteras la garde afin que nul ne nous surprenne pendant notre sommeil. » La princesse et le chasseur tombèrent dans le sommeil tout aussitôt. Et le lion resta assis là, veillant sur eux. Mais lui aussi était fatigué par le combat. Et à son tour, il appela l'ours et lui dit « Il faut que je dorme un petit peu. Alors tiens-toi près de moi. » Et s'il arrive quelque chose, réveille-moi. » L'ours se tint à côté du lion, et lui aussi était fatigué. Il appela le loup et lui dit « Ah, il faut que je dorme un petit peu. Tiens-toi près de moi, et s'il arrive quelque chose, réveille-moi. » Le loup prit la garde à son tour, et lui aussi était fatigué. Il appela le renard. « Ah, il faut que je dorme un petit peu, renard. Tiens-toi près de moi, et s'il arrive quelque chose, réveille-moi. » Le renard se mit près du loup, et fit la garde, et il se sentit fatigué, il appela le lièvre. « Ah, hé, lièvre, il faut que je dorme un petit peu. Tiens-toi près de moi, et s'il arrive quelque chose, réveille-moi. » Le lièvre se mit à côté du renard pour faire la garde, mais lui aussi, il était fatigué comme les autres. Et il n'avait plus personne à appeler pour la garde. Et alors, cher auditeur, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le petit lièvre, il s'est endormi. La princesse dormait, le chasseur dormait, le lion, l'ours, le loup, le renard et le lièvre dormaient. Tous étaient plongés dans un profond sommeil. Et en face, vous vous souvenez, le maréchal du roi, celui qui devait, qui avait ordre de rester et d'observer de loin. Il vit que le dragon n'avait pas emporté la princesse et que tout était tranquille sur la montagne d'en face. Aussi, prenant son courage à toutes les mains, il monta prudemment à son tour. De près, il vit le dragon décapité, taillé en pièces, déchiqueté sur le sol. Et à côté, la princesse étendue, le chasseur à côté, et tous les animaux, tous endormis et plongés dans le plus profond sommeil. Aussi le maréchal du roi tira son épée, coupa la tête du chasseur, saisit la princesse au bas de la montagne. « Je te tiens en mon pouvoir. Tu diras que c'est moi qui ai tué le dragon. »«
Mais comment pourrais-je le dire? C'est un mensonge ?» C'est un chasseur qui l'a fait avec ses animaux.
Il tira encore son épée et menaça de la tuer si elle ne lui obéissait pas, l'obligeant à lui en donner sa parole.
Et quand elle se fut engagée par serment, il la mena devant le roi qui ne savait plus que faire tant il était heureux de revoir vivante son enfant chéri qu'il croyait déjà dévoré par le monstre.
« J'ai tué le dragon et délivré ta fille avec tout le royaume, » dit le maréchal. « Je la réclame comme épouse conformément à la promesse. »
Le roi se tourna vers sa fille et lui demanda « Il dit la vérité ?»«
Oui, il faut que cela soit ainsi. Mais je tiens à ce que le mariage ne soit pas célébré avant un an et un jour. Tel est mon droit. »
Pendant ce temps-là, sur la montagne du dragon, les animaux dormaient toujours à côté de leur maître, tué. Alors, un gros bourdon vint se poser sur le nez du lièvre. Et le lièvre agita sa patte pour éloigner le bourdon, et le bourdon revint. Le lièvre le chassa de nouveau, et dormit de plus belle. Le bourdon revint encore, et lui piqua le nez pour le réveiller. À peine tiré de son sommeil, le lièvre réveilla le renard, qui réveilla le loup, qui réveilla l'ours, qui réveilla le lion. Et quand le lion fut réveillé, il s'aperçut que la jeune fille n'était plus là et que son maître était mort. Il poussa un rugissement terrible. « Qui est le criminel? Qui a perpétré cet assassinat? Ours, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ?» L'ours se retourna vers le loup. « Loup, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ?» Et le loup, « Eh, renard, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ?» Et renard, « Lièvre, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ?» Et le pauvre lièvre, qui n'avait personne sur qui se retourner, resta le seul à devoir répondre. Et dut endosser toute la responsabilité de la faute. Les autres tous voulaient lui tomber dessus. Il les implora, « Ne me tuez pas, ne me tuez pas !» Je saurai ressusciter notre maître. Et faire qu'il retrouve la vie. Je connais une montagne où pousse une certaine racine, et celui qui a cette racine dans la bouche se guérit de toute maladie et de toute blessure.
Mais la montagne est à 200 heures d'ici.
Tu as 24 heures pour courir là-bas et en revenir avec la racine, décida le lion.
Alors le lièvre partit à toute vitesse, à toute vitesse, à toute vitesse, et au bout de 24 heures, il était de retour. Rapportant la racine. Le lion prit la tête du chasseur et la remit en place, et le lièvre introduisit la racine dans sa bouche. Aussitôt la plaie disparut, le cœur se remit à battre, et la vie revint dans tous les membres du chasseur qui se réveilla, effaré en voyant que la jeune fille n'était plus là. Elle sera partie pendant que je dormais. Peut-être qu'elle ne voulait pas de moi. Et le lion, dans sa précipitation, il avait posé la tête de son maître à l'envers. Et celui-ci était triste dans ses pensées à cause de la princesse. Il ne s'en était pas aperçu. Ce fut qu'à midi, quand il voulut manger, qu'il se rendit compte qu'il avait le visage du côté du dos. Et comme il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, il demanda aux animaux ce qui s'était produit pendant son sommeil. Et le lion lui répondit, lui raconta qu'ils s'étaient eux aussi endormis, écrasés de fatigue suite au combat terrible contre le dragon, et qu'ils l'avaient trouvé mort à leur réveil, la tête détachée du tronc. Le lièvre avait rapporté la racine souveraine contre tout mal, et lui, le lion, dans sa hâte, il avait replacé la tête à l'envers. Mais ce serait pas grave, parce que maintenant, il allait réparer cette faute. Aussitôt, il lui arracha la tête de nouveau, la remit à l'endroit, et le lièvre la lui ressouda grâce à la racine. Triste comme il l'était, le chasseur s'en alla à travers le monde en faisant danser ses animaux devant un public, et le hasard voulut qu'au bout d'un an, jour pour jour, son voyage le remena justement dans la ville où il avait sauvé la fille du roi en tuant le dragon. Et la ville, cette fois-ci, était toute tendue de rouge écarlate. Et il alla voir l'aubergiste. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il y a un an, la ville était tendue de crêpes noires et aujourd'hui, c'est de rouge écarlate.
Il y a un an, répondit l'aubergiste,
la fille du roi devait être livrée au dragon. Le maréchal du roi a combattu le dragon et a tué le dragon. C'est demain que seront célébrées les noces. La ville était tendue de noir en signe de deuil l'autre fois. Et aujourd'hui, elle est tendue de rouge en signe de réjouissance et de grande joie.
Viens au pays, viens à la noce, viens au mariage de Marie. Les cloches volent, les oiseaux carillonnent, comme c'est un paradis. Viens au pays, viens à la noce, pour Marie c'est le plus beau jour.
Se termine la première partie et donc la semaine prochaine nous saurons si le héros vainqueur du dragon saura ou ne saura pas rentrer dans ses droits ou si c'est le maréchal du roi qui va vraiment épouser la princesse. Eh bien, à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.